Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. C'est un cataclysme stellaire qui a embrasé la communauté des astrophysiciens du monde entier. Le 17 août dernier, pour la première fois, des scientifiques ont réussi à observer la collision de deux étoiles à neutrons, un des phénomènes les plus violents du cosmos, encore très mal connu. Autre grande première, cette collision a été perçue simultanément avec des méthodes astronomiques classiques et à l'aide de détecteurs d'ondes gravitationnelles. Ces ondes que l'on ne parvient à détecter que depuis 2015 et qui ont valu à leur découvreur le prix Nobel de physique cette année. Cet après-midi, la physicienne Frédérique Marion et l'astrophysicien Frédéric Daigne nous emmènent dans les coulisses de ce qui constitue sans nul doute la découverte astronomique de l'année et nous verrons avec eux ce que l'astronomie gravitationnelle couplée à l'astronomie classique devrait apporter à la compréhension de l'univers dans les années à venir. Pour leur adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. À la une de la science avec Agnès Fèvre. Bonjour Agnès.
Bonjour Daniel.
Aujourd'hui, vous vous intéressez aux dons de gamètes insuffisants aujourd'hui en France.
Oui, l'attente peut s'avérer très longue pour ceux qui demandent un don de spermatozoïdes ou d'ovocytes. Certains se tournent d'ailleurs vers d'autres pays. Aujourd'hui débute donc une campagne de sensibilisation aux dons et c'est l'occasion de faire le point avec le médecin en biologie de la reproduction, Nathalie Rive.
Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Céline Hila et préparé par Thomas Lehété.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Autour de la table, Frédérique Marion, physicienne au laboratoire de physique des particules d'Annecy, et Frédéric Daigne, astrophysicien à l'université Pierre et Marie Curie. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Frédérique Marion, vous avez la chance de participer à la naissance d'une nouvelle astronomie, l'astronomie gravitationnelle. Depuis 2 ans, les scientifiques disposent de nouveaux outils pour regarder le cosmos. C'est une chance incroyable de vivre cette aventure.
Effectivement, oui, on a un nouveau messager pour observer l'univers et chance encore plus incroyable. Depuis le mois dernier, on a pu associer ce messager au messager traditionnel de l'astronomie.
Ouais, c'est ce que l'on appelle l'astronomie multimessager.
Exactement.
Ça va permettre de faire de grandes choses et vous allez nous expliquer quoi dans cette émission. Le 16 octobre dernier, Frédéric Daigne, vous étiez au siège du CNRS à Paris pour une annonce qui, alors au même moment, hein, partout dans le monde, dans tous les grands organismes de recherche, on faisait cette annonce, cette première observation avec cette astronomie multimessager. C'était une collision d'étoiles à neutrons, en quoi c'était une première?
C'était plusieurs premières à la fois. Première fois qu'on détectait une collision d'étoiles à neutrons en ondes gravitationnelles et première fois qu'on observait en même temps de la lumière. Ouais. Et donc c'était une observation qu'on attendait depuis des années. C'est merveilleux et ouais. L'excitation était vraiment incroyable.
Il y avait de l'émotion, vraiment.
Ah oui, c'est quelque chose dont on parlait depuis très longtemps et à la fois ça confirme des choses qu'on croyait, ça pose de nouvelles questions, enfin ça donne un élan incroyable à notre discipline.
La révolution de l'astronomie gravitationnelle est en route. Vous allez partager avec nous cette formidable aventure scientifique à laquelle vous avez la chance de participer. Et les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions via la page de l'émission sur franceinter.fr. À la une de la science, appel au don de gamètes de l'Agence de la biomédecine.
Chérie, hier j'ai entendu un message à la radio sur le don de gamètes.
Les gamètes? Mais c'est quoi?
C'est les spermatozoïdes et les ovocytes. Maintenant je sais qu'il y a des gens qui décident de donner leurs gamètes à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça m'a beaucoup touchée, je sais pas pourquoi.
Peut-être parce qu'on a un enfant et que tu t'es dit qu'on avait beaucoup de chance.
Extrait d'un des spots de la campagne d'appel aux dons de gamètes qui démarre donc aujourd'hui. Chaque année, près de 3500 nouveaux couples souffrant d'infertilité demandent à bénéficier d'un don de gamètes. Mais le nombre d'hommes et de femmes qui acceptent de donner leurs spermatozoïdes ou ovocytes est encore largement insuffisant. L'Agence de la biomédecine estime par exemple qu'il faudrait 3 fois plus de dons d'ovocytes pour satisfaire la demande. Elle lance donc cette campagne de sensibilisation qui va se prolonger jusqu'au 26 novembre. On en parle avec votre invitée Agnès Fèvre.
Nathalie Rive, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure au CHU de Rouen et présidente de la Fédération française des CECOS. Ce sont les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Alors en 2015, Nathalie Rive, 540 femmes ont donné leurs ovocytes, 255 hommes ont donné des spermatozoïdes. Alors ça a beau être en hausse par rapport à 2014, on a l'impression quand même que ça fait pas beaucoup.
En fait, le nombre n'est pas encore suffisant pour répondre rapidement à la demande. C'est vrai pour le don de spermatozoïdes, mais c'est encore plus vrai pour le don d'ovocytes et pour donner aux couples le maximum de chances à la fin de leur démarche d'avoir une grossesse, mais surtout un enfant vivant à la maison.
Qu'est-ce qu'il faudrait idéalement pour répondre à cette demande? On a dit à environ 3500 nouveaux couples souffrant d'infertilité qui débarquent chaque année, qui demandent un don de gamètes.
Il faudrait pour le don d'ovocytes environ 3 fois plus de candidates au don pour avoir 3 fois plus de donneuses. Et pour le don de spermatozoïdes, moi je serais même un peu plus exigeante que le souhaite l'agence de la biomédecine. Si on multipliait au moins par 1,5 le nombre de candidats au don, ça nous laisserait de plus grandes libertés, surtout de réduire les délais d'attente qui sont en moyenne de 13 mois dans le cas du don de spermatozoïdes, mais qui peuvent être de 24 mois, voire de 48 mois dans le don d'ovocytes.
Ça peut aller jusqu'à 4 ans, donc?
Oui, dans certaines structures, oui, tout à fait.
Ce qui fait que certaines femmes, enfin, ou certains couples, se tournent justement vers des pays étrangers, parfois.
Surtout pour le don d'ovocytes, et très très peu pour le don de spermatozoïdes actuellement pour les couples infertiles. Mais vraiment, pour le don d'ovocytes, on a un certain nombre de nos couples qui vont vers l'étranger pour une prise en charge plus rapide et aussi pour avoir le maximum de chances d'aboutir à une grossesse et une naissance.
Comment ça se fait qu'à l'étranger, il y ait moins de manque, puisqu'on va à l'étranger, c'est qu'a priori, là, on est moins en pénurie de gamètes dans ces pays?
Les modalités de prise en charge des donneurs ou des donneuses sont différentes à l'étranger, avec des règles de fonctionnement qui ne correspondent pas à ceux de la loi de bioéthique en France. Dans certains pays, il y a une rémunération vraie de la donneuse d'ovocytes, comme en Espagne ou dans certains pays de l'Est. Et il en est de même pour les plus grandes banques de spermatozoïdes européennes qui sont au Danemark, où il y a non seulement une rémunération des donneurs, mais pas la même limitation en termes du nombre de naissances par donneur. Ce qui fait que la réponse, elle peut être plus rapide, mais pas avec les mêmes conditions de prise en charge et un coût très élevé à la charge des couples.
Agnès ?
Et en France, justement, on y réfléchit à cette incitation financière éventuellement, ou bien on se dit qu'il faut peut-être renforcer davantage la communication. Comment encourager les Français à donner davantage leurs gamètes?
En France, on est plutôt dans l'esprit de la solidarité. Donc en fait, l'idée, c'est de faire de plus en plus d'informations de façon à recruter de plus en plus de candidats. On n'est pas dans la rémunération parce qu'on est aussi avec les autres types de dons qui ne sont pas les gamètes, qui sont le sang, qui sont le don d'organes, les cellules souches hématopoïétiques, où là, le don est également gratuit. Donc c'est un peu une philosophie de fonctionnement à la française. Et on n'est pas tout à fait certain qu'en rémunérant les donneurs, on atteigne aussi la complète autonomie telle qu'on l'a.
Donc il faut plus communiquer, c'est ça que vous nous dites?
Plus communiquer, oui, tout à fait, de manière très régulière. Parce qu'on voit bien que dès qu'il y a une communication, on a une plus grande démarche de candidats au don, qu'il s'agisse d'ovocytes ou de spermatozoïdes. Alors que pendant les périodes creuses, eh bien effectivement, il y a moins de sollicitations plus possibles. Quand on veut donner, c'est parce qu'on a eu multiples informations, parce qu'on a aussi des personnes auprès de soi qui sont intéressées par cette problématique d'infertilité, et puis parce qu'on a de l'information régulière.
N'importe qui peut donner ses spermatozoïdes ou ses ovocytes?
Alors pour être donneur de spermatozoïdes, il faut être majeur et on peut être en couple ou célibataire et on peut avoir ou ne pas avoir d'enfant et en tout cas il faut être en bonne santé.
Ça a changé ça, il me semble qu'il fallait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il fallait avoir eu des enfants soi-même pour pouvoir faire des dons de gamètes.
Oui, il y a eu un changement et une application de la loi de bioéthique de 2011 avec les décrets, les arrêtés fin 2015 et 2016 qui font que depuis ces dates, eh bien, il est possible pour tout homme ou femme, dès lors qu'on est majeur et en bonne santé, de pouvoir donner ses gamètes, même si on n'a pas d'enfant. Ça nous a permis en 2016 d'avoir une affluence un peu plus importante des candidats au don, mais on s'est rendu compte en 2017 que cette affluence était beaucoup moindre parce qu'il y a peut-être eu un manque d'information et cette campagne est là pour justement ressolliciter la solidarité de tous au niveau du don.
On dit que c'est un petit peu plus contraignant pour les femmes. Quel est le procédé exact pour donner ses ovocytes?
Comment ça se passe? Une fois, admettons que des auditeurs soient tentés par ce don de gamètes, comment ça se passe concrètement?
Alors, pour une femme Donc, pour les deux candidats au don, il y a rendez-vous de consultation au sein des centres autorisés pour ces activités. On recueille les antécédents médicaux, personnels et familiaux. On voit s'il n'y a pas de contre-indication, effectivement, à devenir donneur. Pour une donneuse d'ovocytes, elle aura en plus, effectivement, pour initier son don, un traitement hormonal pour stimuler l'ovulation, une ponction des ovocytes, en général sous courte anesthésie générale ou sous anesthésie locale, et ensuite, eh bien, sa démarche sera accomplie. Pour le don de spermatozoïdes, il y a 7 démarches initiales de consultation et puis ensuite des recueils de spermatozoïdes qui vont être congelés. En général, la donneur de spermatozoïdes va se déplacer entre 5, 6, voire 7 fois. Une donneuse d'ovocytes, elle va avoir environ 5 ou 6 déplacements dans toute sa démarche. Donc c'est vrai que c'est un peu contraignant peut-être sur le temps. C'est plus contraignant au niveau physique pour la donneuse que le donneur de spermatozoïdes. Mais en tout cas, il y a des équipes qui sont prêtes à accueillir ces candidats et les accompagner au mieux pendant toute leur démarche.
Il va y avoir un changement dans la loi, certainement en 2018. L'assistance médicale à la procréation ne sera plus cantonnée seulement aux couples hétérosexuels. Et donc, ça risque d'accroître les besoins de gamètes. Comment vous allez pouvoir vous adapter ?
Il est vrai que s'il y a l'ouverture du don de spermatozoïdes aux femmes seules ou aux couples de femmes homosexuelles, il est certain qu'il faudra recruter un plus grand nombre de donneurs. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il va falloir assurer une prise en charge adaptée à ces situations. Donc il y a tout un mode opérationnel à mettre en place. Et on espère, comme on l'a pour les couples infertiles, un élan de solidarité quant à l'ouverture à ces possibilités de prise en charge qui feront que on espère pouvoir répondre dans des délais les plus corrects. Mais en tout cas, il y a un recrutement plus important et un mode de prise en charge qui doit être bien organisé avant d'envisager cette possibilité.
Nathalie Rive, pour avoir plus de renseignements, si on veut faire ces dons de gamètes, il y a un site qu'on peut mentionner à l'antenne ?
Alors, vous pouvez avoir ces infos sur le site de l'Agence de la biomédecine ou sur le site de la Fédération des SECOS, donc secos.fr. Et pour ceux qui sont sur Facebook, on a aussi un compte Facebook des SECOS qui vous permet d'avoir toutes les informations régulières, voire de nous poser des questions.
Et on va mettre tout ça en lien sur la page de La Tête au Carré sur le site de France Inter. Merci à vous, Nathalie Rive.
Merci beaucoup.
Et un grand merci à vous, Agnès Fèvre. À bientôt, j'espère, dans
La
Tête au Carré. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 9 pays pourraient éradiquer l'hépatite C d'ici 2030. Il s'agit de l'Allemagne, du Brésil, de l'Égypte, de la Géorgie, de l'Islande, du Japon, des Pays-Bas, de l'Australie et du Qatar. L'annonce a été faite lors du 2e sommet mondial sur cette maladie organisée au Brésil. L'hépatite est une inflammation du foie provoquée par un virus qui cause 1,3 million de décès par an dans le monde. La B et la C provoquent plus de la moitié des nouveaux cas de cancer du foie selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Laos, la population d'éléphants d'Asie a fondu ces 30 dernières années. Ils sont deux fois moins nombreux. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent trop, ils transportent le bois, ils sont aussi exploités pour le tourisme. Il devient donc inconcevable d'envisager une reproduction, car la longue période de gestation, 22 mois, est trop longue. En tout cas, c'est ce que disent les éleveurs qui refusent de se priver de cette source de revenus. Des chercheurs du CNRS et de Boval Nature ont élaboré des modèles pour voir ce qui pourrait permettre à l'espèce de perdurer, car à ce rythme, elle est sérieusement menacée. Il en ressort qu'un congé maternité serait idéal. Il compenserait les pertes financières des éleveurs et assurerait la survie de l'espèce. D'où venait l'albâtre, ce minéral blanc très prisé par les sculpteurs au Moyen-Âge et à la Renaissance? Depuis 2013, un projet scientifique associant notamment le Bureau de Recherche Géologique Minière et le Musée du Louvre entend faire la lumière sur les sources d'approvisionnement de ce matériau. Les chercheurs ont analysé la composition de l'albâtre de 66 œuvres d'art et ont pu identifier 54 gisements britanniques, italiens, espagnols ou allemands. Ils ont aussi mis en évidence des gisements de la partie méridionale des Alpes françaises. La plupart des monuments funéraires de la papauté d'Avignon ont été fabriqués à partir d'albâtre tiré de ces carrières situées à 240 km de là. On s'intéresse aux toutes premières découvertes de l'astronomie gravitationnelle dans un instant, dans La Tête au Carré. Et nos invités attendent vos questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Nanfonbois, c'était Mélissa Laveau sur France Inter.
Mesdames et messieurs, nous avons détecté les ondes gravitationnelles. Ça y est, c'est fait. Je suis si heureux de pouvoir vous dire ça. Ces ondes gravitationnelles ont été émises par deux trous noirs entrant en collision pour n'en former qu'un seul il y a 1,3 milliard d'années. Elles ont été détectées par LIGO, l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, qui est à l'heure actuelle l'instrument de mesure le plus précis jamais construit.
Nous étions le 16 février 2016, annonce historique de la découverte des ondes gravitationnelles. Alors depuis, les choses ont été très très vite. Invité de la tête au carré, Frédéric Marion, physicienne au laboratoire de physique des particules d'Annecy, membre de la collaboration LIGO Virgo, et Frédéric Daigne, astrophysicien à l'université Pierre et Marie Curie à l'Institut d'astrophysique de Paris. Avec eux, nous allons revenir sur le dernier grand résultat de l'astronomie gravitationnelle, l'observation pour la première fois d'une collision d'étoiles à neutrons. Alors, les auditeurs assidus de la tête au carré auront remarqué que le thème des ondes gravitationnelles a été évoqué plusieurs fois dans l'émission au cours de ces dernières semaines. Mais il faut dire que le mois dernier a été particulièrement riche en annonces dans ce domaine. La médaille d'or du CNRS, puis le prix Nobel de physique sont venus récompenser les principaux acteurs de la découverte des ondes gravitationnelles. Et Frédéric Marion, ce n'est pas un hasard si les récompenses s'accumulent. La découverte des ondes gravitationnelles, c'est vraiment historique pour les scientifiques et pour les astrophysiciens en particulier.
Oui, c'est historique parce que c'était attendu depuis très longtemps. L'existence des ondes gravitationnelles, c'est une prédiction qui remonte à un siècle, puisqu'elle est issue des théories d'Einstein. Ouais. Et il a fallu tout ce temps pour arriver à construire des détecteurs capables de les mettre en évidence.
C'est-à-dire qu'Einstein, dans ses théories, prévoyait leur existence. Alors lui, quand même, il pensait qu'on n'arriverait pas à les détecter. Hein. Il n'y croyait pas.
Au début, il n'y croyait pas. Il a mis longtemps à se convaincre, effectivement.
Ouais. Et alors, comment on a réussi à les capter, finalement, ces ondes gravitationnelles?
Alors, bon, peut-être il faut rappeler que les ondes gravitationnelles, ce sont des vibrations de l'espace-temps qui se propagent dans l'espace jusqu'à traverser la Terre, où nos détecteurs les captent. Alors, on les capte en utilisant de la lumière et des miroirs qui vont mettre en évidence ces petites déformations de l'espace minuscules qui surgissent au passage de l'onde gravitationnelle.
Donc, quand une onde gravitationnelle passe, imperceptiblement, la Terre change un petit peu de forme.
Voilà, l'espace se contracte ou se dilate, ou se contracte puis se dilate au passage de l'onde, mais c'est absolument minuscule, ouais. Et donc c'est tout ce qui fait la difficulté expérimentale.
Et à quoi ils ressemblent alors ces instruments qui ont la finesse de capter ces infimes mouvements?
Alors ce sont ce qu'on appelle des interféromètres, puisque la mesure qu'on doit faire, c'est une mesure de distance, et une bonne manière de faire ça, en fait, de mesurer la distance entre des objets, c'est de mesurer le temps que la lumière met pour parcourir cette distance. Et dans un interféromètre, on fait ça de manière comparative pour être plus sensible. Donc c'est un faisceau laser et des miroirs pour faire très simple.
Mais ça à quelle taille? C'est gigantesque, c'est des gros instruments.
Ce sont des instruments très grands qui font plusieurs kilomètres de long, mais les effets qu'on cherche à mettre en évidence, eux, en fait, sont très petits, des variations de distance au niveau de 10 puissance moins 18, voire 10 puissance moins 19 mètres sur ces 3 ou 4 kilomètres.
Et aujourd'hui, à la surface du globe, combien y a-t-il de ces interféromètres qui font plusieurs kilomètres?
Alors, des grands interféromètres, on en a 3. Il y a les deux détecteurs LIGO aux États-Unis et le détecteur Virgo en Europe.
Oui, qui se trouve en Italie.
En Italie.
Alors, dès qu'on a réussi à découvrir ces premières ondes gravitationnelles, d'ailleurs, c'était quel phénomène, Frédéric Daigne, qui ont produit ces premières ondes gravitationnelles que l'on a mesurées en 2015, en août 2015?
Alors, la première détection, c'est un système de deux trous noirs qui orbitent l'un autour de l'autre. Et justement, la théorie prédit qu'ils doivent se rapprocher l'un de l'autre en émettant des ondes gravitationnelles. Et le signal détecté correspond à ce qui est émis dans les toutes dernières orbites avant que les deux trous noirs se rencontrent. Et ensuite, un petit signal très ténu qui est émis par le nouveau trou noir formé à l'issue de cette collision.
Et voilà comment des phénomènes que l'on n'avait jamais pu voir, et pour cause, hein, un trou noir, c'est sombre, ça n'émet aucune lumière, donc on n'a jamais pu l'observer directement avec l'astronomie classique. Et tout d'un coup, on dispose d'outils qui permettent d'en percevoir quelque chose.
Oui, c'est un des intérêts de cette découverte, c'est que pendant très longtemps, on parlait de candidat trou noir quand on voulait être très précis. Et là, on observe vraiment un trou noir, on est sûr que c'est un trou noir au sens de la relativité générale. Ouais. Et effectivement, une des grandes surprises de cette première observation, c'est la masse des deux trous noirs observés. Deux trous noirs de 30 masses solaires à peu près, 30 fois la masse du Soleil. C'était pas forcément ce qu'on attendait en premier. Ça a généré beaucoup de questions sur lesquelles on réfléchit encore. Comment un système comme celui-là se forme, par exemple? C'est pas du tout une question astrophysique évidente.
Ouais. Et Frédéric Marion, l'image a été prise. Certains ont dit, quand on a réussi à détecter les premières ondes gravitationnelles, ils ont dit pendant longtemps, c'est comme si on avait regardé l'univers avec l'image et tout d'un coup on a mis le son. On a accès à une autre source d'information dont on ne disposait pas.
Oui, effectivement, c'est une bonne image. Alors, ce n'est qu'une image.
Oui, ce ne sont pas des ondes sonores, les ondes gravitationnelles.
Tout
on
à
est d'accord.
Fait. On peut filer la métaphore, notamment parce que la fréquence des signaux qu'on détecte, des signaux qui sont captés par nos détecteurs, ont la même fréquence que celle que nos oreilles sont capables d'entendre. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez pu faire entendre les signaux d'ondes gravitationnelles.
Alors, les promesses tout de suite sont venues. On a dit, avec ces nouveaux outils, on va pouvoir voir des choses que l'on n'avait jamais perçues. Et les promesses ont été tenues. C'est allé même très rapidement. Voilà ce que l'on a pu entendre le 16 octobre dernier sur France Inter.
Le 17 août va rester gravé dans les annales scientifiques. C'est ce jour que les deux détecteurs d'ondes gravitationnelles captent un signal fort à 130 millions d'années-lumière. Très vite, les chercheurs comprennent que ce signal est envoyé par deux étoiles à neutrons sur le point de fusionner. On parle des objets les plus denses du cosmos. Benoît Moore est directeur de recherche au CNRS, responsable scientifique de Virgo.
Lorsqu'ils sont entrés en collision, il y a eu plein de matière déjectée, il y a eu de la lumière produite, il y a eu des sursauts gamma, c'est une sorte de super rayon X qui est extrêmement énergétique, qui a été envoyé dans l'univers. Ça nous apprend à mieux connaître l'univers.
Reportage de Rosalie Lafarge le 16 octobre dernier sur France Inter. Cette collision d'étoiles à neutrons a fait grand bruit dans les médias, pas uniquement dans la communauté scientifique. Frédéric Daigne, c'est quoi une étoile à neutrons? Déjà, pour qu'on essaye de s'y retrouver.
Alors, c'est une étoile très bizarre, on peut le dire. Ouais. En fait, à la fin de leur vie, les étoiles les plus massives, typiquement plus de 10 fois la masse du Soleil, évoluent très rapidement en passant par plein de stades de fusion nucléaire où elles créent de nouveaux éléments. Et à la fin, le cœur de l'étoile devient un cœur de fer. Et le fer, c'est un élément un peu particulier dans la classification périodique des éléments. On peut plus faire de réaction nucléaire avec. Non. Donc à partir de là, il se passe plus grand chose dans ce cœur. Et ce cœur est soumis à son propre poids et commence à s'effondrer sur lui-même. C'est un objet qui, à cette époque-là, fait 1000 km de rayon et à peu près une fois et demie la masse du Soleil.
Ouais,
il s'effondre sur lui-même. À ultra dense déjà, mais il n'a pas fini de devenir ultra dense.
Il n'a pas fini de se densifier.
Alors il commence à s'effondrer sur lui-même. Ça dure une fraction de seconde parce que c'est de la chute libre. Et il va s'arrêter au moment où il y a une nouvelle force qui apparaît, qui domine et qui va permettre de stopper le poids et de trouver une nouvelle configuration d'équilibre. Et cette nouvelle force, elle est atteinte quand les constituants élémentaires de la matière, qu'on appelle les nucléons, qui sont les particules qui constituent les noyaux des atomes, sont presque à se toucher. Et à ce moment-là, il y a une force qu'on appelle la force nucléaire ou l'interaction forte qui devient très intense et qui va créer une pression qui s'oppose au poids et qui permet de construire un objet. Et quand ça se produit, l'objet fait maintenant 10 km. C'est ouais. Comme si on mettait une fois et demie la masse du Soleil dans la taille de Paris.
Oui.
Et on peut montrer qu'au cours de l'effondrement, les nucléons se sont tous progressivement changés en neutrons. Donc en fait, l'étoile est constituée principalement de neutrons, donc on l'appelle étoile à neutrons. Ouais. Mais c'est un objet très exotique.
Oui, très exotique. Et quand vous dites on met le Soleil dans une sphère qui fait le diamètre de Paris, forcément, on imagine, et d'ailleurs certains l'ont dit, une petite cuillère d'une étoile à neutrons, ça pèse des milliards de tonnes.
La
matière est dans un état qui nous est pas du tout familier. Quand vous dites exotique, c'est exotique.
C'est un des intérêts de cette astrophysique, c'est que l'univers ici nous offre un laboratoire qui permet de tester les lois de la physique dans un régime qu'on ne pourra jamais atteindre sur Terre. Ouais. C'est complètement impossible de reproduire ça au laboratoire.
Et alors, déjà, l'objet est exotique et étonnant. Et là, ce que vous avez observé grâce à ces ondes gravitationnelles, c'est une fusion de deux étoiles à neutrons. On va voir dans la suite de cette émission ce que ça a donné. Et puis, vous répondrez bien sûr aux questions des auditeurs qui arrivent sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
I got the blue magic. so tragic. Probably 44 moons or more. And I don't want to count how many days I've been dragged all around the floor. And I don't want to be a bad man, but I'm a bad man just the same. You know, I mean we got no time for games. I got the blue magic, and I rock it so savage, 'cause I got the blue magic. Yeah, I got the blue magic, I got the blue magic, and I rock it so savage, 'cause I got the blue magic. I got blue automatic on my first trip around the sun. Now I got the blue in Spanish, damn, I'm always on the run. I don't want to be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let me know if you can manage, 'cause I got no time for games. Yeah. I got the blue magic, and I rock you so savage, 'cause I got the blue magic. Yeah, I got the blue magic, I got the blue magic, and I rock you so savage, 'cause I got the blue magic. Sky for a sign. Never wanted to be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let the sun do, nothing else to do. We got no time for games.
Sun Little Blue Magic sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
La physicienne Frédérique Marion et l'astrophysicien Frédéric Daigne sont les invités de cette tête au carré. On revient sur cette observation qui a complètement défrayé la chronique au sein de la communauté des astrophysiciens. On a observé pour la première fois une fusion, une collision d'étoiles à neutrons. Vous étiez aux premières loges, Frédérique Marion, pour assister à l'événement. Alors il faut se c'était relativement récent, hein, c'était en août dernier, le 17 août.
Le 17.
Comment vous avez vécu ça de l'intérieur?
Un petit peu après 14h41, on a eu l'alerte que nos détecteurs avaient détecté un signal très fort. Et en même temps qu'on a eu cette alerte, on a su que juste après le signal d'onde gravitationnelle, moins de 2 secondes après, il y avait aussi un sursaut gamma qui avait été détecté par des satellites qui détectent les rayons gamma. Mmh. Ce qui a achevé de nous convaincre qu'on tenait là un événement exceptionnel. Et donc, dans les heures qui ont suivi, on a, donc nous, détecteurs d'ondes gravitationnelles aussi, partagé cette information, communiqué l'alerte en transmettant une carte du ciel où pouvait se trouver la source à nos partenaires de l'astronomie traditionnelle pour que tous les télescopes se braquent vers cette région du ciel. Et dans la nuit qui a suivi, ont été captés les premiers signaux lumineux.
C'est la différence. Jusqu'à maintenant, en ondes gravitationnelles, on avait observé des trous noirs qui ne fournissaient ou qui ne nous envoyaient que des ondes gravitationnelles. Et quand vous dites, on a su tout de suite que là, on avait affaire à autre chose qu'une collision de trous noirs, c'est que c'était accompagné d'émissions gamma, d'ondes gamma. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, les rayons gamma, Frédéric Daigne?
Alors, vous savez que la lumière ne se limite pas juste à la lumière visible auquel notre œil est sensible, mais voilà, les micro-ondes, les ondes radio, c'est de la lumière. Et donc, les rayons X et les rayons gamma, c'est de la lumière, c'est la lumière la plus énergétique. Chaque grain de lumière, chaque photon transporte 1000 à 1 million de fois plus d'énergie qu'un grain de lumière visible. Et ce sont des rayons qui sont arrêtés par l'atmosphère, ce qui est plutôt pas mal pour le développement de la vie, mais un peu embêtant pour celui de l'astronomie.
Oui. Bon, on va se contenter de ça, voilà. Alors, si ça peut nous sauver la vie.
Et donc, c'est une astronomie qu'on fait depuis l'espace. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de satellites. Ouais. Et les sources gamma sont connues depuis la fin des années 60. C'est des petits flashs de photons gamma très très brefs, une fraction de seconde ou quelques secondes. Et on se doutait que les plus courts d'entre eux étaient associés à des fusions d'étoiles à neutrons. Et là, on en a la confirmation éclatante.
Et alors, comment ça se fait que jusqu'à maintenant, on n'avait jamais observé de fusion d'étoiles à neutrons?
Alors d'abord, c'est pas des phénomènes très fréquents à l'échelle d'une galaxie, par exemple. Dans une galaxie comme la nôtre, on peut estimer peut-être à un événement tous les 10 000 ans, ou peut-être un tout petit peu plus que ça. Donc c'est pas très fréquent. Donc faut être capable d'être sensible à un grand volume d'espace pour en voir quelques-uns. Donc c'est un des points qui a compté, c'est que la sensibilité des instruments comme LIGO et Virgo s'est améliorée, et donc on explore un volume d'espace plus grand.
Ouais. On a eu de la chance aussi sur ce coup-là, même si évidemment on se rend compte, hein, il y a la compétence, le savoir-faire des astrophysiciens, mais on a aussi l'impression qu'on a eu de la chance sur ce coup-là, Frédéric.
Bien sûr, il y a un facteur chance puisque la source était relativement proche. Elle est très lointaine, mais elle est relativement proche, suffisamment proche pour que le signal d'onde gravitationnelle soit très intense et pour que le sursaut gamma associé soit parfaitement visible et pour que la lumière qui est émise ensuite soit également visible pendant plusieurs semaines.
Vous dites relativement proche, ça s'est passé où cette collision?
Uniquement à 130 millions d'années-lumière.
Ouais. C'est déjà très très au-delà de notre propre galaxie. Hein.
Oui, le million d'années-lumière, c'est typiquement l'ordre de grandeur des distances entre galaxies.
Ouais.
Donc on est très au-delà des galaxies les plus proches.
Il peut s'en produire plus proche de nous, de ces fusions
d'étoiles
à neutrons?
Oui, mais de manière beaucoup plus rare.
Ouais. Voilà. C'est quand même un événement très rare. Pierre vous demande, sur la page de l'émission, sur franceinter.fr, combien de temps dure une collision d'étoiles et comment définit-on le début et la fin?
Alors en fait, ici, il faut bien comprendre que le signal détecté, c'est pas que la collision finale, c'est aussi un signal qui est émis quand les deux étoiles sont encore bien séparées et tournent l'une autour de l'autre. Et même en fait, dans ce cas précis, le signal n'est détecté que dans cette phase-là, qui est la phase dite spiralante. Et il se termine au moment où les deux étoiles rentrent en contact. Ouais. Et ensuite, justement, c'est une très bonne question de savoir ce qui se passe immédiatement après cette fusion. Ouais. Peut-être qu'il faudra un peu plus d'observations pour répondre vraiment très précisément, mais en tout cas, l'ordre de grandeur de la durée, eh bien, on a un moyen d'évaluer l'échelle de temps caractéristique de ces objets, et ça doit se compter, ce qui se passe doit se produire en quelques millisecondes ou quelques dizaines de millisecondes former un nouvel objet.
C'est quand même fou ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que ça se passe à 130 millions d'années-lumière, hein, bien au-delà de notre galaxie. C'est un événement qui n'a duré que quelques fractions de secondes et on en a un aperçu.
Voilà, alors là, le signal gravitationnel est détecté pendant 100 secondes, mais il est vraiment intense que tout à la fin. Et ensuite, donc, comme Frédéric l'a dit, 1,7 secondes plus tard, on reçoit le sursaut gamma. Et lui, il dure de nouveau 2 secondes. Mmh. Et ensuite, on a détecté aussi une autre lumière, qui est moins énergétique, de la lumière visible et infrarouge. Elle, on l'a détectée 11 heures après. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas là avant, mais il faut le temps de s'organiser pour pointer les télescopes. Il faut qu'il fasse nuit. Ouais. Voilà, ce genre de choses.
C'est une collaboration extraordinaire.
Ah, oui,
70 télescopes, que ce soit des satellites, des télescopes au sol, ont tous convergé vers cette observation.
Je crois que c'est un exemple assez rare de collaboration à l'échelle internationale avec à la fois, enfin, je sais pas combien vous êtes dans Virgo LIGO, mais plus d'un millier de personnes, voilà. Ouais. Et puis certaines équipes, c'est 10 personnes avec un télescope. Et voilà. Et tous ces gens-là ont collaboré ensemble. Ouais. Alors, ça avait été préparé à l'avance, hein.
Entre parenthèses, vous avez tenu votre langue, hein, parce que ça a eu lieu en août dernier. Mmh. Le grand public et nous, les journalistes, nous l'avons su le 16 octobre dernier. C'est-à-dire qu'on imagine l'effervescence qu'il y a dû avoir dans vos labos pendant les 2 mois qui viennent de s'écouler. Et ça n'a pas fuité, hein, le pas trop, en tout cas,
pas
vous
trop,
devinez.
Oui.
En tout cas, l'information n'était pas parvenue jusqu'à moi. C'est difficile de garder une telle découverte à autant de scientifiques.
Oui, alors moi, je suis pas dans LIGO Virgo, donc justement, je l'ai su un peu après ma collègue.
Frédéric Marion.
Oui, bon, alors, juste pour préciser, toutes ces semaines qui ont passé depuis, c'est pas juste pour le plaisir de garder le secret, c'est surtout que pendant tout ce temps, on travaille à écrire les publications scientifiques qui relatent ce qu'on a observé et qui commencent à en tirer toute la sève scientifique. Mmh.
Théo vous demande à quelle vitesse se déplacent ces ondes gravitationnelles.
Ah ben c'est bien que Théo pose la question, puisque maintenant on peut lui répondre.
Oui,
en fait.
On ne le savait pas, on n'en était pas sûr avant cette histoire.
Alors Einstein avait prédit que les ondes gravitationnelles et la lumière se propagent à la même vitesse. Mais cet événement du 17 août a permis de le vérifier avec une très grande précision, puisque figurez-vous qu'après un voyage de 130 millions d'années-lumière, le signal d'ondes gravitationnelles et le sursaut gamma arrivent pratiquement en même temps, à 2 secondes d'écart. Et encore, le plus vraisemblable, c'est que ces 2 secondes, ça correspond au décalage entre le moment où les ondes gravitationnelles sont émises et le sursaut gamma est émis. Donc maintenant, effectivement, on sait avec une bonne précision que les ondes gravitationnelles se propagent à la vitesse de la lumière.
Ouais. On en a maintenant la confirmation, au-delà de la théorie, on en a la confirmation physique.
Voilà, avec une bonne précision.
On en a la preuve absolue. Qu'est-ce que ça nous a permis d'apprendre? C'est d'ailleurs un peu ce que nous demande Élise, là encore, sur la page de l'émission, en parlant d'astronomie multimessager. Donc, à la fois, on utilise les ondes gravitationnelles et la lumière. Quel type d'informations peuvent nous apporter les ondes gravitationnelles que la lumière ne nous donne pas? Alors, dans ce cas précis, sur cette collision d'étoiles à neutrons, qu'est-ce qu'on a appris?
Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que les informations sont très différentes en fait. Donc le premier messager dans l'ordre historique des missions, c'est les ondes gravitationnelles, et il permet de caractériser très précisément le système initial. Quelle était la masse des 2 étoiles, on va dire en gros 1,5 fois la masse du Soleil. Après, elles peuvent ne pas exactement avoir la même masse, mais voilà. Plus tard, on pourra sans doute préciser à quel point elles tournaient sur elles-mêmes, ce qu'on appelle leur spin. Voilà, ce genre de choses. Après, des effets plus fins aussi sur comment se comporte cette matière ultra dense. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, le sursaut gamma, lui, on sait déjà des choses sur les sursauts gamma. Et donc maintenant qu'on a cette association, ça nous dit que juste après la fusion des 2 étoiles à neutrons, le nouvel objet qui s'est formé, et là on n'est pas capable de dire si c'est un trou noir ou une étoile à neutrons supermassive.
Ah, on ne sait pas ce qu'il y a.
Voilà, on saura sans doute un jour. On peut déjà commencer à avoir une intuition, mais on ne peut pas le dire vraiment précisément. Il faudrait pouvoir détecter le signal gravitationnel après la fusion. Ce qu'on fera peut-être dans l'avenir, mais qu'on n'a pas pu faire cette fois-ci. Et on sait que cette source, elle a été capable d'éjecter de la matière à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Le sursaut gamma, on sait qu'il est associé à une éjection de matière relativiste. Relativiste, ça veut dire proche de la vitesse de la lumière.
Ça nous a aussi donné des informations sur la façon dont se forment certains éléments, sur l'or, le platine. C'est lors de ces collisions ultra-violentes du cosmos que se forment ces...
Tout à fait. Alors ça, c'est justement l'autre lumière détectée qui nous dit ça. En fait, quand les 2 étoiles rentrent en collision, il y a de la matière qui est éjectée. Et cette matière, elle est très riche en neutrons, puisque c'est de la matière étoile à neutrons. Et donc, elle est dans des conditions favorables à la formation de noyaux encore plus lourds, qui est en construisant des noyaux, en rajoutant très rapidement plein de neutrons. Et ça permet de faire les noyaux parmi les plus lourds, donc comme vous avez cité, l'or, l'uranium, le platine. Et en fait, ces éléments, quand ils sont formés, la majorité des éléments qui sont formés sont initialement radioactifs. Donc l'éjecta qui est produit initialement est chauffé par la radioactivité et ensuite se refroidit en rayonnement. Et ça, c'était prévu théoriquement et ça a été observé. On observe une lumière pendant presque 2 semaines qui initialement est plutôt bleue et qui ensuite rougit. Ça, c'est un signe de refroidissement qui initialement est très intense, qui diminue en intensité. Là aussi, ça refroidit. Et quand on analyse finement cette lumière, eh bien d'abord, on peut montrer qu'il y a des traces dans ce qu'on appelle le spectre de la lumière, c'est-à-dire la répartition en couleur des photons, d'absorption par des éléments très lourds. Alors malheureusement pas l'or ou le platine, mais le tellure et le césium qui sont des éléments déjà assez lourds. Et on voit aussi que la lumière est suffisamment rouge pour pouvoir prouver que les éléments les plus lourds ont été également produits. Donc ça répond à quelque chose d'assez mystérieux, ce qui était l'origine de ces éléments.
Ça faisait
très longtemps qu'on se posait
la question.
Mais
ça veut dire que c'est la seule façon de les produire?
Alors, il y a encore un autre site possible qui serait certaines explosions d'étoiles qu'on appelle les supernovae. Il y a un débat depuis longtemps entre ces deux sites, mais là, on peut dire que les coalescences d'étoiles à neutrons ont maintenant des arguments très sérieux.
Tiennent la corde. Allez, suite et fin de notre discussion dans un instant. Comment l'astronomie gravitationnelle pourrait faire progresser notre connaissance de l'univers dans les années à venir? C'est ce que nous allons voir dans La Tête au Carré sur France Inter.
Don't danse et nous dansons souvent au bord du cratère sur un volcan. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça. Le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser, au bord du cratère. Ni le magma. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Petit bout de chair, danser au bord du cratère. Danser, le tigre a faim. Vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Dansez au bord du cratère.
C'était La Maison Tellier sur France Inter. La programmation musicale de cette émission est signée Thierry Dupin.
La tête au carré sur France Inter.
Sa planète est beaucoup plus proche de Gargantua qu'on ne croyait.
Gargantua ?
Le nom qu'on a donné à ce trou noir. Les planètes de Miller et de Mann sont en orbite autour de lui.
Celle de Miller est sur son horizon ?
Comme un ballon de basket qui tourne sur le cercle. Tenter d'y atterrir serait dangereux. Il y a une force gravitationnelle colossale qui émane d'un tel trou noir.
Je peux faire un crochet autour de cette étoile à neutrons pour décélérer.
Non, c'est pas ça le souci. C'est le temps. La gravité de cette planète va ralentir notre horloge par rapport au temps terrestre. De façon radicale.
Annoncez la couleur.
Eh bien, chaque heure passée sur cette planète équivaudra à cette année sur notre vieille Terre.
Non, non, j'ai...
Bah quoi, les amis, c'est la relativité?
Extrait du film Interstellar. C'est vrai que les trous noirs, ce sont encore des objets assez exotiques, mais peut-être que les ondes gravitationnelles vont permettre de mieux les comprendre. Autour de la table, la physicienne Frédérique Marion, l'astrophysicien Frédéric Daigne. Et on va tout de suite poser la question de Michel. Quelles sont les différences entre la collision de deux étoiles à neutrons et celle de deux trous noirs? Frédéric Daigne.
Dans le cas de la collision des deux trous noirs, on n'attend pas forcément de lumière associée parce qu'il n'y a pas de masse éjectée en quantité, il n'y a pas ce dont je parlais, les réactions nucléaires, etc. Donc c'est de la pure relativité générale. C'est deux trous dans l'espace-temps qui se rapprochent l'un de l'autre et qui fusionnent pour faire un trou un peu plus gros. C'est vraiment le summum de l'abstraction en termes d'observation.
Ouais. Frédéric Marion, jusqu'à maintenant, justement, avec les ondes gravitationnelles, ce sont surtout des collisions de trous noirs que l'on a observées. Combien de collisions de trous noirs on a observées jusqu'à maintenant?
Alors, jusqu'à présent, 4, ou peut-être 5. Il y en avait un signal qui était un petit peu plus faible qu'on n'a pas pu confirmer. Et si on compare ces signaux, donc les signaux de trous noirs, donc on capte la toute fin du processus dans nos détecteurs, et c'est beaucoup plus rapide dans le cas des trous noirs, ça dure une seconde, une fraction de seconde, alors que pour la coalescence des étoiles à neutrons, on a pu observer une centaine de secondes. Tout ça parce que, en fait, les systèmes de trous noirs sont plus efficaces à rayonner des ondes gravitationnelles du fait de la masse plus importante des trous noirs. Du coup, on retrouve la différence aussi au niveau énergétique. L'énergie qui est émise dans la fusion d'étoiles à neutrons, c'est quelques centièmes de fois la masse du Soleil en équivalent, ce qui est déjà énorme, mais ce qui est rien à côté de l'énergie émise dans une fusion de trous noirs qui peut atteindre une fois ou plusieurs fois la masse du Soleil.
Et alors, il existe des trous noirs supermassifs, comme celui qui est au centre de notre galaxie à nous. Est-ce qu'on peut envisager que ces trous noirs hypermassifs entrent eux aussi parfois en collision lorsque des galaxies, par exemple, fusionnent? Ça arrive. Et est-ce qu'on pourrait l'observer grâce aux ondes gravitationnelles?
Alors, on peut tout à fait l'imaginer, mais pour pouvoir l'observer avec les ondes gravitationnelles, il va falloir un autre type de détecteur capable de capter les ondes gravitationnelles à plus basse fréquence. Et c'est tout l'objet du projet d'interféromètre spatial LISA.
Donc là, c'est quelque chose qu'on envoie dans l'espace pour capter des ondes gravitationnelles. C'est prévu pour 2034, si tout se passe bien.
Si tout se passe bien.
Oui, voilà. Donc c'est pas pour tout de suite non plus. Mais vous nous avez dit que les détecteurs d'ondes gravitationnelles, ils font plusieurs kilomètres quand ils sont au sol. On va pas envoyer un détecteur de plusieurs kilomètres dans l'espace?
Non, non, plusieurs millions de kilomètres, ce sera beaucoup mieux.
C'est-à-dire?
Pour le coup, l'équivalent des miroirs se trouvera sur des satellites qui seront distants de plusieurs millions de kilomètres.
Ah oui, donc on va vraiment simuler un instrument de plusieurs millions de kilomètres grâce à ces miroirs qui seront distants.
Exactement.
Ah oui, formidable. Ludovic vous demande, d'ailleurs il a une question un peu proche de celle de Paul, alors je les regroupe toutes les deux. Ludovic vous dit, la détection et l'étude du signal des ondes gravitationnelles nous apprennent-ils quelque chose sur la naissance ou l'origine de l'univers? Et Paul complète en demandant si la détection de ces ondes gravitationnelles permet-elle de remonter le temps jusqu'à la naissance de l'univers?
Alors, pas encore aujourd'hui, mais on peut l'espérer, notamment parce qu'on s'attend à ce que l'univers soit baigné d'ondes gravitationnelles primordiales, c'est-à-dire émises juste après le Big Bang. Alors, tout le problème, c'est quelle est l'intensité de ce signal, et hélas, il est sans doute beaucoup trop faible pour être accessible aux détecteurs interférométriques, ceux d'aujourd'hui ou ceux du futur, à moins que ce soit les modèles les plus exotiques qui aient raison, ceux qui prédisent que ce signal pourrait être plus intense. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces ondes gravitationnelles primordiales, elles sont présentes sur tout le spectre des fréquences, y compris à très basse fréquence, et que nos meilleures chances, c'est peut-être de rechercher l'empreinte qu'elles auraient pu laisser dans le fond diffus cosmologique.
Alors, pour bien comprendre ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de détecter des ondes gravitationnelles, mais pas sur tout le spectre. Un peu comme avec la lumière visible. Pendant un moment, on regardait ce qu'on était capable de voir avec nos yeux, et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi aller voir dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet, dans les fameux rayons X, les rayons gamma dont vous nous avez parlé. Et finalement, pareil pour les ondes gravitationnelles, pour le moment on a un tout petit bout de la lorgnette et il y a encore des ondes gravitationnelles qu'on ne capte pas.
Exactement. Donc les détecteurs interférométriques terrestres, ils sont sensibles dans la partie haute du spectre, donc à haute fréquence. Pour aller à plus basse fréquence, il faut avoir des détecteurs spatiaux, donc en projet. Mais il y a déjà des efforts expérimentaux pour explorer à plus basse fréquence, notamment des collègues qui utilisent les pulsars, donc des étoiles à neutrons en rotation sur elles-mêmes, dont on reçoit les émissions radio à intervalles réguliers. Ils utilisent ces pulsars comme des horloges cosmiques extrêmement stables pour sonder des déformations de l'espace entre les pulsars et nous.
Frédéric Daigne, pour conclure, on a un nouvel outil et puis on a une nouvelle méthode, c'est cette astronomie multimessager. Est-ce que vous avez déjà dans les tuyaux des nouvelles découvertes que vous ne pouvez pas encore annoncer, mais qui devraient encore nous surprendre? On est vraiment en train de voir la science, l'histoire en train de s'écrire devant nous là.
Non, j'ai pas ça dans les tuyaux, mais je peux vous dire ce qu'on attend pour les prochaines prises de données sur plusieurs années. Mais donc, est-ce que par exemple, il y a aussi des fusions d'un système un peu intermédiaire qui serait une étoile à neutrons et un trou noir? On en attend, mais on n'en a jamais vu. Est-ce qu'on peut voir le signal juste après la fusion? Ça nous renseignerait vraiment sur ce qui s'est passé juste après la fusion. Est-ce qu'on pourra faire un jour de l'astronomie multilongueur d'onde gravitationnelle, c'est-à-dire voir par exemple un système dans l'ISA, dans l'espace, est capable de dire il va fusionner dans 5 ans et 5 ans plus tard, à 10 secondes près, on sait où il faut regarder, dans quelle direction, quand il faut regarder et on le voit avec les interféromètres au sol.
Ah, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci à vous Frédéric Marion et Frédéric Daigne. On vous souhaite plein de belles découvertes dans les mois et les années à venir. Et c'est le moment de retrouver le docteur de la tête au carré.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Daniel.
Alors votre chronique d'aujourd'hui, c'est un peu la suite de celle de jeudi dernier.
Exactement, j'avais parlé des médicaments dangereux pendant la grossesse et notamment la terrible histoire du thalidomide dont les enseignements n'ont pas permis d'éviter le drame tout récent de la dépakine. Alors l'agence du médicament a donc réagi en annonçant l'apposition de pictogrammes sur les boîtes des médicaments dangereux pendant la grossesse.
Mais alors comment détermine-t-on qu'un médicament est dangereux pendant la grossesse justement ?
Eh ben c'est pas si facile. Bien sûr, on peut pas le tester chez des femmes enceintes. Donc, avant la commercialisation d'un nouveau médicament, on étudie son effet sur la grossesse chez plusieurs espèces de mammifères. Et si tout se passe bien, le niveau de sécurité est déjà élevé. Mais par principe de précaution, tout nouveau médicament est d'emblée contre-indiqué chez la femme enceinte. Et ensuite, on attend.
Alors on attend, comment ça on attend? On attend quoi?
Eh ben on attend les erreurs. C'est-à-dire la prise intempestive du médicament par des femmes qui ignorent qu'elles sont enceintes. Alors c'est fréquent et inéluctable. Et alors les chercheurs étudient la survenue éventuelle de malformation. S'il ne se passe rien d'anormal après une dizaine d'années et des centaines de prises accidentelles pendant des grossesses, eh bien la contre-indication disparaît pour être remplacée par une précaution d'emploi. La notice professionnelle du médicament mentionne alors la nécessité de ne le prescrire à une femme enceinte que lorsqu'il n'existe pas d'alternative avec un médicament plus ancien et donc plus sûr. Et c'est là qu'apparaît la polémique sur ces pictogrammes. Leur présence sur les boîtes des rares médicaments dangereux pendant la grossesse ne se discute pas, bien sûr. Idem pour ceux qui sont très récents et dont le risque de toxicité ne peut encore être écarté. Mais il est question d'apposer sur plus de la moitié des autres médicaments, ceux dont je vous parlais dans la catégorie à n'utiliser que si nécessaire, un pictogramme montrant une femme enceinte dans un triangle rouge avec la légende « grossesse égale danger » et en dessous la phrase « ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternatives thérapeutiques ». Alors bon, je comprends et je soutiens d'ailleurs la nécessité d'informer directement le public. Mais je trouve que ce message très inquiétant devrait être assorti d'une information plus complète dans la notice, alors que cette dernière se contente le plus souvent d'une phrase évasive renvoyant sur le médecin. Et ce dernier risque de passer pas mal de temps au téléphone pour rassurer les patientes inquiétées à tort par cette alerte.
Mais alors, que faire? Qu'est-ce que vous proposez finalement, Dominique Dupagne?
Daniel, en fait, nous, professionnels de santé, on dispose d'une information détaillée sur un site officiel qui fait référence sur l'usage des médicaments pendant la grossesse. www.lecrat.fr, L-E-C-R-A-T. Il me semble que la notice présente dans les boîtes de médicaments devrait comporter l'adresse de ce site et, encore mieux, un flashcode permettrait d'accéder directement à la page du médicament avec son smartphone, car cette page sur le site du CRAT est souvent plutôt rassurante. Tant qu'à informer, faisons complètement. Et puis enfin, dernière chose importante, le risque de malformation, il est surtout présent en début de grossesse quand une femme ne sait pas forcément qu'elle est enceinte. Et le logo devrait, à mon avis, évoquer le risque de grossesse, l'absence de contraception par exemple, plus que la grossesse elle-même.
Merci Dominique Dupagne et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Demain, la tête au carré déménage à Nantes. Nous serons en direct et en public du festival Les Utopiales pour une émission entre science et fiction avec pour thème santé le temps. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir.